12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Avec son nouveau roman, La Maison Vide, il est encensé dans toute la presse. Laurent Mauvignier sera mon invité à partir de 13h. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critiques. Au menu aujourd'hui, deux romans qui nous arrivent des États-Unis où ils ont connu l'un et l'autre un immense succès. James de Percival Everett, paru aux éditions de L'Olivier. Et Les Étoiles Errantes de Tommy Orange, et ça c'est chez Albin Michel. Vous écoutez les Midis de Culture et j'aime beaucoup ce que vous faites. Et pour parler de ces deux romans, avec moi en studio, Pierre Benetti, critique littéraire au journal En Ligne en attendant Nadeau. Bonjour.
Bonjour Marie.
Romain de Becdelièvre, auteur, conseiller dramaturgique et producteur à France Culture.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Alors, il faut quand même oser s'attaquer à Mark Twain, considéré comme beaucoup par le père fondateur de la littérature américaine. Et c'est ce qu'a fait Percival Everett avec son roman James, paru aux éditions de L'Olivier. Il reprend l'intrigue et les personnages des aventures d'Huckleberry Finn, immense classique paru en 1884. Mais le narrateur ici, c'est Jim, diminutif de James, Jim, l'esclave noir qui va fuir la plantation, Jim qui feint d'être illettré et inculte quand il est en présence de blanc, Jim qui va accomplir un voyage épique vers l'émancipation. Gros succès donc aux États-Unis. James a remporté le National Book Award et le prix Pulitzer Fiction. On commence avec un avis rapide de l'un et de l'autre, Romain de Becdelièvre.
Moi j'ai trouvé que c'était une grande réussite ce livre. Alors à la fois une uchronie littéraire qui donc réécrit l'histoire de Huckleberry Finn et aussi se plonge dans l'histoire des États-Unis et que alors j'ai pu lire dans la presse, ça a été décrit comme un jeu, quelque chose de ludique, un peu gratuit et d'exercice de style, et je suis pas du tout d'accord parce que les implications de cette modification et de cette réécriture de l'histoire, à la fois politique et esthétique, j'ai trouvé étaient très puissantes et je les ai pas tout encore sondées tellement j'ai pris une claque.
Pierre Benetti.
Ah oui, pour moi c'est une très grande expérience de lecture, d'autant que c'est vraiment une nouvelle aventure, c'est-à-dire que c'est plus l'aventure d'un petit garçon blanc, c'est l'aventure d'un esclave noir qui observe les blancs et qui observe la société dans laquelle il vit. Et ce qui n'empêche pas, il y a tout évidemment un discours critique sur lequel on va revenir et c'est une littérature puissamment critique, mais ça n'empêche pas du tout aussi le plaisir de la fiction qui se déploie. Simplement, à la base, c'est un nouveau point de vue et il me semble que c'est le point de vue aussi de notre époque.
Alors, grand plaisir de lecture pour l'un et l'autre. On va écouter un passage de ce James qui est lu par Marceau Vassy.
Ces petits vauriens étaient cachés dans les hautes herbes. La lune n'était pas complètement pleine, mais elle rayonnait et se trouvait derrière eux. Donc je les voyais comme en plein jour, même au cœur de la nuit. Les lucioles luisaient par intermittence sur le fond noir de la toile. J'attendais à la porte de la cuisine de Miss Watson, et du bout du pied, je faisais bouger une planche disjointe, sachant qu'elle allait me demander de réparer ça le lendemain. J'attendais qu'elle me donne un pain de maïs qu'elle avait préparé avec la recette de Massadi. L'attente constitue une grande partie de la vie d'un esclave qui attend et attend qu'on le fasse attendre encore. On attend des ordres, de la nourriture, la fin des jours, la récompense chrétienne, juste et méritée, au bout du bout.
James de Percival Everett aux éditions de L'Olivier. La traduction est assurée par Anne-Laure Tissu. Romain de Becdelièvre, vous disiez une grande claque de lecture, plus politique que ludique.
Oui, c'est ça. Donc, on est immédiatement plongé avec ce livre dans les aventures de Huckleberry Finn et l'univers, enfin le monde littéraire. C'est vraiment un monde, il y a une histoire de monde en fait dans ce roman-là. Avec ce personnage de James qui donc était secondaire dans la fiction, et on l'aperçoit dans Tom Sawyer aussi. Et donc là, qui devient le personnage central et le narrateur qui dit donc pendant tout ce texte-là. Et on va donc changer de perspective. L'enjeu principal de cette écriture-là, c'est un enjeu de langue et un enjeu de parole, c'est-à-dire que les esclaves qui donc parlent. Ce qui est très choquant quand on lit Mark Twain, quand on lit, j'ai pensé à Moby Dick aussi, il y a un harponneur noir qui a l'écriture, on supprime les R par exemple, enfin, c'est comme dans Astérix, le personnage qui est pirate. Ouais, voilà. Tous ces moments gênants. Et donc on est confronté à ce type de langage-là, c'est-à-dire un langage de noir américain cliché, et qui était dans Mark Twain. Et donc on se rend compte que les personnages d'esclaves, et donc James en l'occurrence, ils jouent à parler comme ça. C'est-à-dire, entre eux, ils ont une langue extrêmement soutenue. Et donc ça, c'est dans les toutes premières pages. Et c'est un des premiers grands décalages que produit le livre. C'est, ah d'accord, en fait, ils font semblant de parler comme ça. Et donc, c'est à la fois très, très drôle, parce qu'il y a une dimension théâtrale. C'est pour les Blancs qui parlent comme ça. Et c'est un enjeu politique très, très puissant. Parce que c'est une manière, et James le dit au début, de maintenir les Blancs dans l'illusion de la suprématie blanche. Et donc, à partir de ça, il y a ce roman d'aventure qui va se déployer et qui va reprendre très clairement au début la trame de Culberry Finn, mais depuis le point de vue de l'esclave noir. Et donc, ça change mais tout, en fait. C'est-à-dire, c'est pas un pastiche. C'est-à-dire, c'est vraiment une vision du monde... des enjeux à la fois de politique de l'esclavage, c'est-à-dire que James est esclave, et donc ce statut d'esclave empêche énormément de choses, c'est-à-dire il peut pas se déplacer de jour, etc. Enfin, donc tout l'enjeu de l'aventure, en fait, est réécrit depuis ce point de vue-là. Et donc, on va suivre cette aventure-là dans un ton que j'ai trouvé au début qui emprunte beaucoup à Mark Twain, c'est-à-dire une dimension quand même qui reste un peu comique, humaniste, etc. Et il y a un moment où on bascule dans l'enfer, c'est-à-dire le Huckleberry Finn disparaît, et donc c'est plus que James qui se retrouve tout seul, et donc dans l'enfer blanc des états sudistes esclavagistes. Et là, le roman se colore très très différemment. Ouais.
Pierre Benetti.
Moi, je voulais rebondir en précisant qu'on peut tout à fait, et ça a été mon cas, je tiens à l'avouer, apprécier ce roman sans avoir lu Huckleberry Finn. Moi, je n'ai jamais lu Huckleberry Finn, à mon grand regret, mais j'ai envie de le lire désormais. Et j'ai fait un peu exprès, c'est-à-dire que j'ai failli le lire avant de lire cette réécriture, en me demandant est-ce que ça marche, en fait. Est-ce que ça marche de lire une réécriture avant la version numéro 1, quoi. Et alors, un, ça marche très bien, évidemment. Et étrangement, moi, j'ai eu le sentiment vraiment de lire un livre de mon époque, c'est-à-dire un temps où on doit faire avec les textes qui nous ont précédés, certes les textes racistes dont on parle très souvent, mais aussi les textes humanistes comme celui de Mark Twain, parce que Mark Twain n'a pas écrit un livre affirmé comme raciste, et pourtant... Percival Everett, avec toute son génie littéraire qui travaille tous les codes littéraires américains, on est assez habitué à ça avec lui, hein. Il a travaillé le western, il a travaillé le polar, le thriller dans ses précédents livres, et ben là je trouve que c'est très courageux de s'emparer d'un texte qui est quand même un monument de la conscience humaniste, anti-esclavagiste, et d'aller chercher le racisme sous-jacent, notamment du personnage de Huck Finn, qui fait partie de sa société blanche. Donc voilà, je voulais préciser quand même ça. C'est qu'il ne faut pas se dire, tiens, j'ai pas lu Huckleberry Finn, donc je ne peux pas lire James de Percival Everett. La deuxième chose, et je suis totalement d'accord, c'est que ce contre-point de vue, il crée un effet, lumineux sur les choses, et notamment sur le racisme total de cette société-là. Mais il pousse aussi le lecteur à interpréter en permanence et à travailler pendant sa lecture. C'est-à-dire qu'on nous donne pas un monde très clair. Tout est à décrypter tout le temps, notamment à travers cette invention linguistique. Et on peut penser au récent livre de Laure Murat, hein, qui proposait un état des lieux un peu théorique sur la question de la réécriture ou des réécritures, et là, il y a vraiment un artiste qui nous propose une solution, comme le savent le faire les artistes d'ailleurs. C'est une invention linguistique qui permet de dépasser un peu des débats sans fin sur réécrire ou non les classiques, etc. Et notamment, ça passe donc par une invention formelle. Romain faisait référence au côté théâtral, c'est-à-dire que les esclaves jouent aux esclaves, ils se mettent en scène en noir, précisément devant les blancs. Le théâtre, il est au cœur du livre, parce qu'il y a une scène qu'ajoute Everett. Il ajoute peu de choses, mais il ajoute quelque chose de fondamental.
Parce qu'il garde la trame, hein.
Voilà, il garde toute la trame, mais il ajoute notamment un spectacle de blackface. Donc évidemment, ça résonne aussi avec nos débats contemporains. Mais là où ça devient extrêmement comique, et tout le livre va être sur cette densité comique là. C'est que James, qui va s'appeler à la fin du livre James, va jouer un blanc qui se fait passer pour noir. Enfin, c'est-à-dire que là, on est dans une superposition des identités raciales, et qui vise quand même à faire éclater un peu tout ce théâtre-là, quoi.
Je lisais que Percival Everett détestait Tom Sawyer, en revanche.
Oui, il a dit ça. Je pense que après, c'est bizarre parce qu'à la fin du livre, il remercie quand même Mark Twain et il le salue. Enfin, il y a un rapport un peu
le
concret.
Personnage,
il attaque pas tant ça. C'est comme un commentaire de Mark Twain d'une certaine manière.
Oui, c'est ça.
Un ajout.
Et qu'en fait, l'arrière-plan qui constituait l'arrière-plan de l'univers de Mark Twain, donc de Tom Sawyer et de Culberry Finn, qui était quand même la situation esclavagiste américaine, qui quand même est un monde. Enfin, je sais pas. Je trouve c'est science-fictif presque de se dire que des êtres ont été les possessions d'autres êtres et étaient un meuble, et il nous plonge immédiatement là-dedans. Percival Everett. Et donc dans cette violence-là, il y a une dimension romanesque, et il y a ce mot d'ironie qui revient souvent, c'est-à-dire que le fait que les esclaves parlent comme les esclaves de la littérature classique, etc., c'est aussi un levier qui est puissamment ironique. Et c'est un regard sur le monde blanc aussi. Je me suis demandé à un moment, c'est-à-dire est-ce que ce livre, il n'est pas adressé aussi aux blancs, enfin en tant qu'identité raciale, parce qu'on voit vraiment la construction de la race aux États-Unis a été quelque chose d'extrêmement capital et définitoire pour tous ces gens-là. Et donc il a tout ce regard sur le monde blanc et qui est aussi passionnant à creuser parce qu'ils sont présentés du coup comme une étrangeté depuis le point de vue de James. Mmh. C'est-à-dire ils se comportent comme ça. Ah les blancs ils aiment bien. Il y a beaucoup de remarques comme ça qui sont très très drôles d'ailleurs aussi, qui ont une dimension comique. Et tout ce mystère du coup de la possession et de la violence qui s'est exercée à l'endroit de ces gens-là. Après il y a quelque chose de classique qui est que James doit se réapproprier son histoire, donc le raconter. Donc il y a tout l'enjeu de l'écriture.
Voilà,
qui
ce que j'allais vous dire, c'est aussi quelqu'un qui se met à écrire qui.
Voilà. Ouais. Là-dessus, moi, j'ai un petit bémol à apporter. Franchement, c'est un livre très important, je pense, pour notre époque, pour nous. Enfin, mais moi, j'ai un petit bémol, c'est-à-dire que James se présente dès le début comme un narrateur absolument conscient de sa condition et en possession d'un langage extraordinairement riche, critique, etc. Ce qui est évidemment, comment dire, une manière de reconnaître le réel James, l'individu, et non pas l'esclave qui se met en scène comme un noir, illettré, etc., devant les blancs. Mais ça pose un problème, en fait, pour le lecteur, c'est que dès le début, on a bien compris que c'était le plus malin et qu'il jouait tout le monde. Et donc, on manque peut-être quelque chose comme un itinéraire un peu de ce personnage. C'est-à-dire que moi, j'ai été un peu frustré du fait que dès le départ, il est déjà libre en fait, James d'une certaine manière. Tant mieux pour lui, il est libre intérieurement.
Ah oui, ça fait un personnage immobile un peu.
Voilà, contrairement à un roman d'éducation comme Tom Sawyer ou Huckleberry Finn, qui va nous montrer l'évolution
d'une trajectoire.
Une trajectoire. Et d'ailleurs, bon, c'est un peu dommage parce que ça donne donc une voie toute tracée vers en fait. Alors je divulgue pas la fin du livre, mais quand même vers un élan émancipateur, une révolution, comme si on allait automatiquement de la lecture de Voltaire, puisqu'il découvre Voltaire. En traduction, dans une bibliothèque de blanc, et on a l'impression qu'on va directement, ce qui rejoue quand même un peu la comédie humaniste qu'on a longtemps cru, c'est-à-dire qu'on passe de la lecture de Voltaire à la révolte. Bon, ça n'enlève absolument rien, je trouve, à la force du livre, mais il y a un peu c'était pas le choix qu'avait fait par exemple un écrivain qu'on connaît un peu moins qui s'appelle John Keane, qui avait fait justement une nouvelle où il travaillait aussi le point de vue en fait de l'esclave dans Huckleberry Finn. C'était pas du tout le même choix qui a été fait. Je sais plus, c'est dans un recueil qui est paru il y a quelques années. C'était pas non plus ce qu'avait fait Robert Coover, ça a été traduit il y a quelques mois. C'était aussi une réécriture de Twain. Et là, c'est vrai qu'Everett, il n'hésite pas à y aller franchement, quitte à expliciter un peu trop, à mon sens, tout ce qui relève de la critique de la société esclaviste. On est assez malins, nous lecteurs, pour y aller.
Mais en termes de romanesque, pardon, Romain de Baillieu-Lièvre, vous disiez qu'à un moment donné, le livre bascule parce que ça pourrait être un gimmick, ça pourrait être voilà, cette idée-là est géniale, reprendre Mark Twain, faire parler son esclave et
oui, comme un roman à idées en fait.
Voilà, et c'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas parce qu'il creuse vraiment ce truc-là, il creuse ce monde-là. D'ailleurs, c'est assez beau, le mot monde apparaît. À un moment, il y a un personnage sans divulgâcher qui meurt et il dit on a fait un trou dans le monde pour l'enterrer. Ce qui est assez beau. Et il y a ce mot de monde, quoi. Et c'est vraiment fort. Il reconstitue ce monde-là de la violence. Et en fait, la manière aussi que les esclaves ont un discours qui est différent de celui qu'ils utilisent devant les blancs, ça leur rend quelque chose d'assez puissant qui est la question d'une intériorité. Il y a un moment très très beau comme ça où je me souviens plus exactement dans quelle scène, mais James se retrouve à éprouver quelque chose et il dit, ça, les blancs, ils me le prendront pas. C'est-à-dire il y avait vraiment le seul espace de liberté que les esclaves avaient, enfin, ce qu'ils nous racontent aussi d'une certaine manière, c'était aussi la vie intérieure, et puisque tout, ils étaient dépourvus de tout à côté. C'est une manière d'être nu dans le monde, justement. Il y a ce mot qui apparaît aussi, cette expression qui apparaît à un moment. Mais c'est vrai que oui, le roman déraille et va vers quelque chose qui est de l'ordre de la révolte, de la violence et du quelque chose de politique. Ouais.
Tout en restant romanesque.
Oui, mais en fait, c'est le roman de... Ça devient, au fait, c'est ça qui est très fort. C'est que c'est le roman d'un personnage. Et tout à l'heure, Romain a utilisé l'expression personnage secondaire. Moi, j'ai été très ému de voir un personnage secondaire d'une histoire extrêmement connue devenir, en fait, le réel auteur de son histoire. Ça marche très bien. C'est-à-dire qu'il devient... C'est quasiment... On a oublié Mark Twain, en fait, au fur et à mesure de la... On a même oublié Huckleberry Finn qui s'échappe complètement. Enfin, c'est plus du tout l'enjeu. D'ailleurs, on comprend bien, d'ailleurs, que le voyage que font les deux personnages sur leur île, dans ce livre-là, c'est généré essentiellement par la crainte de James d'être vendu, et non pas par la crainte de Huck Finn de retrouver son père violent. Donc ça inverse déjà les rapports. Mais il y a du romanesque, évidemment, dans comment dire, dans tout ce que va être contre, tout ce que James va être contraint de vivre dans cette identité imposée, et en parallèle vis-à-vis de son lecteur, puisqu'il s'adresse à nous en permanence, il vit autre chose. Et ça, moi, j'ai été, c'est ça qui m'a le plus comment dire enveloppé, c'est cette relation là entre un narrateur qui est pour la première fois narrateur, quitte à ce que Percival Everett emploie ses gros sabots pour nous le faire comprendre, et là il y a vraiment l'invention d'un langage à soi. C'est une langue extrêmement ample. Extrêmement, quand évidemment elle se détache hein, du langage utilisé par les Noirs vis-à-vis des Blancs.
James de Percival Everett, aux éditions de l'Olivier, traduction Anne-Laure Tissu.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Après l'esclavage, c'est une autre cicatrice fondatrice, quelque part, des États-Unis qu'aborde le roman dont nous allons parler, Les Étoiles Errantes. C'est le deuxième livre de Tommy Orange, auteur amérindien issu d'une tribu Cheyenne. Et c'est le long et déchirant processus d'effacement de la culture des natifs américains qu'il nous raconte ici. Tommy Orange commence par remonter aux origines de la violence, le massacre de Sand Creek en 1864, où près de 200 Amérindiens, hommes, femmes et enfants ont été tués. Ceux qui en réchappent seront déportés, rééduqués par la terreur. C'est une histoire qu'on connaît, hein. Le travail, l'anéantissement de leur histoire. 150 ans plus tard, leurs descendants cherchent à s'inscrire dans cette généalogie brutalisée. On commence par un avis rapide, Pierre Benetti.
Bah, j'ai d'abord été très intéressé de découvrir cette histoire hein, que je connaissais mal personnellement de l'emprisonnement en fait des populations amérindiennes et des suites de ce massacre sur un long terme, parce qu'on va plutôt parler de personnages qui sont dans notre présent, enfin ou en tout cas au XXe siècle que des précédents. En revanche, là on vient de parler du livre de Percival Everett, extrêmement inventif formellement. Là il y a vraiment un manque total d'inventivité formelle, et ça j'ai été extrêmement déçu. C'est un roman très classique dans sa manière, dans sa proposition, dans ses points de vue. Voilà, donc je suis assez déçu de ma lecture.
Rapidement, ouais, Romain, de Luc de Lièvre.
Pierre aussi, oui, j'étais assez désarçonné par la lecture de ce livre, c'est-à-dire le projet est passionnant, et de percevoir justement l'errance de ces populations-là et de cette famille-là, parce que c'est un roman familial. Mais assez déçu sur le plan formel, vraiment, c'est vraiment un problème de forme.
Alors on va écouter tout de suite un passage des Étoiles Errantes de Tommy Orange.
Juste avant le lever du jour, j'ai cru entendre des oiseaux après m'être réveillé en sursaut, effrayé par des hommes si blancs qu'ils en étaient presque devenus bleus. J'avais rêvé de ces hommes à la laine bleutée, et les bruits d'oiseaux n'étaient en fait qu'un lent grincement, celui des roues des obusiers de montagne qui s'approchaient de notre campement. Jusqu'à ce matin-là, je faisais des cauchemars depuis des semaines. Alors j'avais pris l'habitude de dormir avec ma grand-mère, Spotted Hawk. Elle priait pour moi avant que je ferme les yeux, me soufflait de la fumée sur le visage après avoir roulé du tabac dans une feuille de maïs, et entonnait un chant qui ralentissait ma respiration et alourdissait mes paupières. De l'intérieur du tipi, j'ai d'abord cru que c'était le tonnerre ou un bison, puis j'ai vu la lueur violet et orangée de l'aube là où les balles avaient troué les parois de la tente. Dehors, tout le monde s'enfuyait ou tombait, fauché en pleine course.
Les Étoiles Errantes de Tommy Orange, merci à Nicolas Berger pour cette lecture. Pierre Benetti, vous l'avez rappelé, on peut le redire, on se situe de nos jours sur les conséquences, en fait, à long terme, qui s'inscrivent quelque part dans l'histoire permanente de ces peuples qui ont été complètement éradiqués.
Parce que le personnage central, et d'ailleurs c'était assez étonnant vis-à-vis de la présentation qui est faite du livre en quatrième de couverture, ce n'est pas Bird, qui est un survivant du massacre de Sand Creek en 1864. Moi je pensais que ça allait être l'action principale. En fait ça occupe les premiers chapitres. Le personnage principal, ça va être son descendant, enfin son fils, Charles, qui lui échappe à une fusillade, qui vit dans un univers de nombreuses addictions, et qui va rencontrer aussi d'autres jeunes Amérindiens. Et d'ailleurs, ça, c'est un des points les plus intéressants du livre, à mon sens. C'est la rencontre entre jeunes Amérindiens touchés par des addictions, des traumatismes, et aussi pris en charge au sein d'une thérapie collective. Et donc, ça va être un roman plutôt sur le sentiment de perte, de nostalgie d'un monde perdu, qui va questionner aussi ce que ça veut dire d'appartenir ou pas à une communauté qui est en fait réduite à des endroits délimités que sont les réserves, qui sont communauté qui est réduite à une identité folklorique, etc. Et donc là-dedans, il y a quand même une ampleur et une ambition de saisir comme ça des trajectoires assez longues, notamment à travers le côté familial. Mais c'est vrai que justement, enfin ça, on a l'impression que le livre ne trouve pas totalement une forme nouvelle pour raconter ça. Il y a notamment à la toute fin, il y a cette phrase d'un personnage qui écrit une lettre et qui dit « Il faudrait inventer un nouveau langage pour exprimer ce qu'on devient avec le temps », ce qui est une magnifique formule par ailleurs. Mais sauf que quand on arrive à la fin du livre et qu'on lit cette phrase, on se dit bah mince, mais c'est pas du tout ce que j'ai lu. C'est-à-dire que tout est extrêmement ordinaire, une alternance des points de vue qui suit le rythme des saisons. D'ailleurs, on comprend pas bien pourquoi, parce que les saisons n'ont rien à voir avec l'histoire racontée. La malédiction de la violence qui se répète. Et puis surtout, il y a un choix principal du style indirect. C'est-à-dire que très souvent, les personnages se mettent à raconter ce qui est arrivé aux autres. Et donc, ça alourdit entièrement l'action et l'avancée du récit. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il y a vraiment un roman qui au contemporain, nous met devant des identités travaillées par un temps bien plus ancien, quoi.
Mais justement, le fait d'utiliser ce style indirect, c'est la tradition orale. Effectivement, il ne reste que ça, peut-être que c'est... Mais c'est pas réussi, Romain de Lacdelièvre.
Oui, alors c'est un deuxième roman. Il avait publié un autre roman qui s'appelait Ici n'est plus ici. D'ailleurs, je sais même pas, il en a peut-être fait d'autres qui n'ont pas été traduits. Et en tout cas, de ce que j'ai lu sur Ici n'est plus ici, c'était apparemment un roman vraiment fragmentaire sur la période contemporaine des Amérindiens, donc descendants des populations natives. Et donc là, on sent, oui, il y a ce geste de vouloir remonter dans le temps. Alors moi, ce que je trouvais intéressant au début, c'est que le massacre de Sand Creek dont on a parlé, il est complètement passé sous silence.
Il est évoqué.
Vraiment, c'est les conséquences. Voilà. On part des conséquences de ce geste-là. Et il veut redescendre là-dessus. Et alors, c'est peut-être la chose aussi qui fait que formellement, on est un peu désarçonné, parce que on voit très très bien la perspective de l'éclatement total de ces populations, à la fois dans l'espace, les étoiles errantes, c'est dans le titre. Il y a aussi l'imaginaire de la course. Les personnages sont toujours épars, comme ça, répandus par le pays, privés d'histoire. Les enjeux, en fait, historiques sont assez bien retracés et assez clairs. Après, le problème, c'est aussi un peu le plan, c'est-à-dire on a trois parties, c'est origine, répercussion, avenir, et qui suivent un plan chronologique, quoi. Et donc on a un peu un flux qui se déroule comme ça, et c'est peut-être aussi après c'est intéressant parce que les idées sont intéressantes, mais la mise en forme est un peu plate d'une certaine manière. Et y a un personnage central qui s'appelle Victoria, qui est au centre d'ailleurs de l'arbre généalogique, puis il y a un arbre généalogique au début du livre. Alors ça, c'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, parce que c'est la figure de la mère des jeunes qu'on va voir dans la dernière partie. Qui ont 25 ans, 20 ans aujourd'hui, enfin en 2018. Et elle va mourir très jeune, et elle, la partie est écrite à la deuxième personne du singulier. Et c'est là, d'un coup, on a un peu une ampleur romanesque, parce qu'on a quelque chose de l'ordre du destin qui lui a raconté, qui est cette voix qui dit « tu vas faire ça ». Et il déroule toute sa vie en disant « tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas rencontrer tel homme, tu vas devenir alcoolique, tu vas boire un verre, puis un verre, puis un verre ». Et là, d'un coup, j'ai eu un effet de « ah, là, ça décolle un peu ». Mais sinon, voilà, le reste, on a l'impression de lire les... C'est une écriture des conséquences, quoi. Et donc, c'est très, très linéaire. Et donc, il y a une linéarité un peu, ouais. Et qui s'accompagne aussi d'une mélancolie. Et qui, je pense que son ambition, c'est de retracer, du coup, l'errance de ses destins à travers ces récits-là. Mais il y a une structure, ouais, qui est un peu immobile, en fait.
Ça raconte, effectivement, vous l'avez évoqué rapidement, Pierre Benetti, toute la question aussi des addictions à l'alcool, aux médicaments.
Oui, mais comme une sorte de nouvelles formes des violences, c'est-à-dire que c'est on part sur la violence de l'enfermement, la violence des massacres, et on continue, enfin c'est une espèce de flux comme ça de violence. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne ressent pas en tant que lecteur à travers une forme comment dire qui réussirait à nous faire entendre la symbiose de ces différentes violences, de ces différentes temporalités, quoi. Ce qui est quelque chose de très étonnant, c'est qu'il y a un prologue excellent. Il y a quelques pages qui posent les enjeux, mais dans un langage assez très littéraire et comment dire quasiment de la non-fiction, et c'est très étonnant comment cette force elle est là dans un prologue qui nous explique ce dont le roman va parler, sans que ce soit poursuivi sur 300 pages, et donc ça, j'étais un peu désarçonné par le côté très didactique de ce prologue et très réussi d'une certaine manière, qui pose vraiment les enjeux de la violence sur le long terme. Et ensuite, pendant le roman, on s'épuise à saisir un peu la vie des personnages et leur... Je n'ai jamais senti l'intériorité de ces personnages, si ce n'est dans ce moment-là, en effet, où il y a une narration bien plus vive et proche. Alors, et il suffit pas franchement de mettre des, ça c'est un truc d'édition, de des citations de Clarice Lispector ou de Toni Morrison pour habiller un peu formellement. C'est un peu dommage.
Ouais. Oui, on sent qu'il a beaucoup de pistes qu'il veut creuser, mais qui sont pas complètement abouties. Il y a la question du rêve, des états modifiés de conscience, qui serait parce que donc à travers la drogue, on a une recherche de cette chose-là, des états seconds entre la vie et la mort, qui emprunterait aussi à des traditions amérindiennes, tout en étant coupé, donc comment ils essaient de retrouver ces choses-là, mais qui sont pas complètement abouties et pas complètement convaincantes. Après, ça tourne aussi beaucoup autour de la question de la mutité, quoi, c'est-à-dire le silence qui a recouvert toutes ces choses-là et comment on se construit dans le silence et comment on en fait des choses. Mais c'est aussi beaucoup, on est bloqué dans la tête de ces gens à un moment. J'ai un sentiment, c'est-à-dire là, c'est beaucoup leur intériorité, leur trouble, leur trauma, l'expérience du trouble par rapport à l'addiction, la perte dans les smartphones. Ils s'emparent de questions aussi extrêmement contemporaine d'un coup, et donc ça devient très un peu bavard et en fait moins politique que psychologique pour moi d'une certaine manière à un moment. C'est-à-dire on a vraiment dans leurs troubles personnels.
Ouais, Pierre Benetti pareil, sur le politique.
Ce qui pose aussi une grosse question, enfin assez intéressante, même si on est peut-être déçu par la lecture, c'est celle de la transformation d'expériences, disons minoritaires ou violentes, en produits, disons diffusables, commercialisables, acceptables. C'est-à-dire que là, moi, j'ai l'impression que c'est un livre qui s'empare de ces existences extrêmement violentées. En transformant ces expériences en quelque chose de très lisible, de très pas lisse, hein, parce que on perçoit ces violences, mais quand même il manque quelque chose, je sais pas, à ce langage là qui nous ferait ressentir vraiment cette violence. D'ailleurs, c'est toujours intéressant d'aller voir les remerciements à la fin d'un livre. À la fin du livre, là, il y a les remerciements pour le, assez classique, hein, pour l'éditrice. Et l'auteur, Tommy Runge, la remercie pour la lisibilité, et la narration. Et c'est très parlant. C'est-à-dire que je me suis dit, il est trop lisible, ce livre. J'aimerais que ces expériences-là, on m'en fasse ressentir l'illisibilité, justement. Enfin, on est devant des personnages qui sont absolument, tout est clair pour eux. Tout ce qu'ils vivent.
Ça,
tout ce que les ancêtres ont vécu est extrêmement clair.
Oui, la causalité est écrite. Enfin, voilà.
Ouais,
bon, bah voilà, Tommy Orange. Je rappelle quand même que ce livre, Les étoiles errantes, a eu beaucoup, beaucoup de succès aux États-Unis.
Oui, c'est parlant, hein. À un moment où Trump remet de nouveau en cause les existences et les espaces des populations natives ou amérindiennes. Ça dépend comment on les appelle. D'ailleurs, le simple fait qu'on hésite sur la manière de les appeler, et c'est très parlant aussi. Donc, en soi, ce livre, c'est important qu'il se diffuse dans notre époque. Mais peut-être que le troisième de Tommy Orange sera plus réussi, je ne sais pas.
Les étoiles errantes de Tommy Orange, c'est chez Albin Michel, traduction Stéphane Roch, Pierre Benetti, Romain Baydeliev. Merci beaucoup.
Merci.
Bienvenue dans les Midis de Culture. Évidemment, vous retrouvez toutes les références, les infos sur ces deux romans sur la page des Midis de Culture et sur le site de France Culture. Maintenant, c'est à vous qui nous écoutez de vous faire une idée.